Una sola escasa humanae sanctificationis chilichet sanguis Christi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, ces mots de saint Thomas d'Aquin, il n'y a qu'une seule cause de la sanctification des hommes, et c'est le sang du Christ, nous montrent toute l'importance de cette dévotion, toute l'importance qu'elle doit avoir dans notre vie. Et d'ailleurs, tout ce mois entier a été dédié par la Sainte Église à cette belle dévotion, la dévotion du précieux sang, au précieux sang de notre Seigneur qui a racheté nos âmes, qui est la source de toute grâce. Et c'est pourquoi, eh bien, prenons quelques instants pour considérer tout ce que cette dévotion peut nous apporter. D'abord, en voyant, bien sûr, combien il était nécessaire pour nous que notre Seigneur offre son sang pour notre salut. Et puis ensuite, à travers les figures de l'Ancien Testament, à travers aussi les textes du Nouveau Testament, eh bien, nous chercherons à nous faire une idée un peu meilleure, eh bien, de cette belle dévotion. Et puis remarquons d'abord que le sang de notre Seigneur était absolument nécessaire pour notre salut. Dieu créa l'homme dans son amitié. Avec la grâce, il créa Adam. Mais hélas, notre premier père a perdu la grâce par le péché originel. Il a brisé cette amitié que l'humanité avait avec Dieu, avec son Créateur. Il a perdu tous les hommes, d'une certaine manière. Alors, pour restituer cette amitié, il fallait réparer. La justice de Dieu exigeait que soit réparé ce péché, cette offense contre lui. Mais comment réparer? Ou plutôt d'abord, qu'est-ce que le péché, pour savoir comment le réparer? Eh bien, le pécheur cherche un certain plaisir dans les créatures. Un plaisir désordonné et par conséquent, il désobéit à la loi de Dieu. Ainsi, plutôt que Dieu, il préfère à Dieu une créature, un plaisir d'un instant qu'il y trouve. Alors, comment réparer le péché? Ce sera en prenant le chemin inverse, une voie toute contraire. Il s'agit de renoncer à la créature, une renonciation douloureuse à un certain plaisir créé, pour prouver, pour protester de notre attachement à Dieu et à Dieu seul, plus qu'à toute créature. Mais comment renoncer? Quelle est la plus grande des renonciations? C'est la renonciation au plus grand des biens. Et quel est le plus grand des biens sinon la vie même? Et c'est le sang qui signifie, d'une manière toute éminente, qui manifeste cette vie. C'est donc par l'effusion du sang que nous pouvons donner à Dieu, que l'homme peut donner à Dieu le plus grand des sacrifices, le plus grand signe d'hommage, hommage à Dieu en tant que maître de la vie et de la mort, et par conséquent, en tant que Seigneur absolu de toute chose, de toute créature. Et c'est pourquoi saint Paul dit « Sine effusione sanguinis non fit remissio ». Sans effusion de sang, il n'y a aucune rémission du péché. Cette vérité est d'ailleurs tellement ancrée dans le cœur de l'homme qu'avant la passion de notre Seigneur, avant que le sacrifice du Christ vienne éclipser tous les autres sacrifices de créatures, eh bien, tous les peuples, sans exception, même les plus dégénérés, pratiquaient le sacrifice, l'effusion du sang des créatures, pour prouver leur soumission à Dieu, ou du moins de ce qu'ils en pensaient, de leur notion de la divinité. Même les peuples qui avaient rejeté tout le décalogue, les peuples qui parlaient d'idolâtrie, avaient perverti la notion de Dieu, qui avaient rejeté toute loi morale, eh bien, ils continuaient à offrir des sacrifices, à répandre le sang des créatures. Mais est-ce que ces sacrifices, et notamment, je ne parle pas des sacrifices des païens, mais ceux de l'Ancien Testament, ceux qui avaient été ordonnés par Dieu dans la loi de Moïse, est-ce que ces sacrifices de créatures pouvaient suffire pour sauver, pour réparer le péché? Eh bien non, Comme le dit saint Paul, il est impossible que le sang des boucs et des taureaux répare le péché. C'est pourquoi le Christ a dit, en entrant dans ce monde, « Me voici, ô mon Père, vous m'avez donné, ô mon Père, un corps, me voici pour faire votre volonté. » Et la volonté du Père, c'était que notre Seigneur offre son sang pour notre rachat. Mais pourquoi fallait-il le sang de notre Seigneur? Eh bien, c'est parce que le péché est une offense infinie, faite à Dieu infinie. Et par conséquent, il fallait le réparer par un sang d'une valeur infinie. Le sang de l'homme fait Dieu, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul peut nous sauver, qui seul peut réparer le péché originel et tous nos péchés. Et c'est très important, chers fidèles, de nous le rappeler souvent contre l'œcuménisme actuel, contre le relativisme religieux. Seul le sang de notre Seigneur peut nous sauver. Il n'y a qu'un seul nom donné aux hommes sur le ciel et sur la terre, dit saint Pierre. Il n'y a qu'un seul nom et c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sang, seule l'Église peut le répandre avec fruit sur les âmes, parce qu'elle seule en a reçu le pouvoir par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous ces sacrifices de l'Ancien Testament étaient-ils totalement inutiles? Non, bien sûr, sinon le bon Dieu ne les aurait pas ordonnés. Il n'aurait pas demandé à Moïse et aux Juifs de faire tous ces sacrifices. Ils étaient utiles, mais indirectement. Par eux-mêmes, nous venons de dire, ils étaient incapables de réparer le péché et de sauver les hommes. Mais ces sacrifices de l'Ancien Testament figuraient l'unique sacrifice, le très agréable sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et l'effusion de son sang. Et c'est en ce sens-là, c'est en tant qu'il donnait la foi, ou plutôt qu'il induisait à avoir la foi dans le Christ à venir, que ces sacrifices de l'Ancien Testament pouvaient sauver, pouvaient justifier les hommes. Et vous remarquerez qu'ils peuvent par conséquent être utiles pour nous, qu'il est utile pour nous de considérer ces sacrifices de l'Ancien Testament, puisqu'ils ont un rôle figuratif du sacrifice de notre Seigneur. Ce don que Dieu, que notre Seigneur a donné de son sang, est un mystère si grand, si insondable, que pour réussir à le pénétrer un tout petit peu, eh bien nous cherchons à le saisir à travers des angles différents, à travers toute une série de sacrifices dans l'Ancien Testament qui jettent une lumière différente sur ce sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et c'est d'abord le sacrifice d'Abel qui nous montre combien agréable était le sacrifice de notre Seigneur. Abel a voulu prendre les plus belles pièces de son troupeau pour répandre leur sang, pour les offrir à Dieu sur l'autel. Alors que Caïn, lui, n'a pris que les cultures, que les plantes, que les produits de son champ, les moins beaux, pour les offrir à Dieu. Et c'est pourquoi le sacrifice d'Abel a été agréable à Dieu et non celui de Caïn. Il figure le sacrifice de notre Seigneur, le sacrifice d'Abel figure le sacrifice de notre Seigneur qui seul peut être agréable par lui-même à Dieu, parce que seul ce sacrifice est vraiment parfait, alors que tous les autres sacrifices des créatures, eh bien, sont forcément limités, ont des taches, sont tachés par nos péchés, par nos imperfections. D'ailleurs, l'Ancien Testament dit que Dieu trouve des taches jusque dans ses anges. Seul le sacrifice de notre Seigneur peut nous rendre agréables à Dieu. Et c'est ce qui fait que lorsque nous faisons des sacrifices, lorsque nous offrons nos mortifications, les difficultés que Dieu nous impose, eh bien, nous devons les offrir en union avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est par là qu'ils trouvent toute leur valeur. Sinon, ils sont rejetés, puisque l'homme par lui-même est incapable de faire quelque chose d'agréable à Dieu. Nous ne pouvons même pas dire le nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec fruit, sinon par l'Esprit Saint, donc sinon par le sacrifice de notre Seigneur. Et puis, c'est le sacrifice de Noé au sortir de l'arche qui figure l'efficacité du sacrifice de Jésus sur la croix. Lorsque Noé offrit ce sacrifice, Dieu s'y complut et il promit à Noé de ne plus jamais faire tomber sur les hommes un déluge. Non pas qu'en lui-même, ce sacrifice de Noé était si efficace pour que Dieu accorde cette faveur à l'humanité, mais c'est parce que le Père voyait dans ce sacrifice le sacrifice de son Fils unique, dont une seule goutte de sang peut réparer tous les péchés des hommes, bien mieux que tous les déluges, bien mieux que tous les châtiments. Cuius una sida salvum facere, totum monum quid ab omni scelere. C'est ce qu'on chante dans la Dorothée. Une seule goutte du sang de notre Seigneur peut laver le monde entier de tous ses crimes. Et par conséquent, il n'était plus nécessaire qu'un déluge vienne réparer les péchés, puisque d'ailleurs tout châtiment en était incapable, parce que le sang de notre Seigneur allait implorer miséricorde pour nous, pour l'humanité pécheresse. Et puis, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. L'agneau pascal devait être sacrifié par chacune des familles des Juifs avant leur sortie d'Égypte. Ils devaient ensuite recueillir le sang de l'agneau, qui représente bien sûr cet agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, comme le prêtre le dit juste avant de distribuer la communion, « Et agnus Dei qui toli peccata mundi ». Et ils devaient prendre ce sang et l'apposer sur le linteau des portes, afin que lorsque l'ange exterminateur passa et vit ce sang, eh bien, il épargna les premiers-nés de cette maison. Il y a une figure, le sang de notre Seigneur qui est posé sur nos âmes, qui, dans lequel nos âmes sont trempées, afin que nous soyons épargnés de la mort du péché d'abord, et puis la mort éternelle de l'enfer. C'est le sacrifice aussi ordonné par Moïse, tous les sacrifices qui devaient se faire au temple avant la venue de notre Seigneur, avant sa passion. Il y en avait quatre sortes, de telle sorte que soient figurés les quatre buts, les quatre fins du sacrifice de notre Seigneur et de toutes les messes. C'était d'abord l'holocauste qui devait être offert. L'holocauste était entièrement consumé sur l'autel afin de figurer l'adoration, l'adoration qui est due à Dieu seul. C'était aussi les sacrifices de propitiation pour obtenir l'expiation des fautes commises contre la loi, et qui signifie le sang de notre Seigneur, le sang de propitiation qui expie tous les péchés des hommes. C'était aussi des sacrifices d'action de grâce. D'ailleurs, si vous regardez les textes des quatre temps, surtout les samedis de quatre temps, on y voit Dieu qui ordonne à Moïse et à tous les Juifs d'offrir régulièrement à l'occasion des semailles, à l'occasion des prémices, des fruits, à l'occasion aussi de toutes les récoltes, eh bien des sacrifices d'action de grâce pour remercier Dieu pour ses dons. Et ces sacrifices signifiaient le sacrifice de notre Seigneur qui rendait grâce à Dieu de tous les dons reçus par les hommes. C'était enfin, quatrièmement, les sacrifices de demande qui étaient offerts au temple pour obtenir les faveurs et les grâces de Dieu, signifiant le sang de notre Seigneur qui nous obtient tout don et toute grâce. Il y aurait ensuite beaucoup de figures de l'Ancien Testament qu'on pourrait développer, notamment le sacrifice d'Abraham, Abraham qui n'a pas hésité à être prêt à sacrifier son fils Isaac. Dieu a envoyé un ange pour retenir la main d'Abraham au moment où il allait sacrifier Isaac. Mais lui, Dieu le Père, n'a pas hésité à faire ce qu'il n'a pas demandé à Abraham. Il n'a pas hésité à sacrifier et à sacrifier réellement son fils unique sur la croix pour le salut de tous les hommes, et qui nous montre toute la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Il y a ensuite beaucoup d'autres figures, mais nous passerons maintenant au Nouveau Testament, au texte du Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament est comme placé sous le signe du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plus de 50 références à ce sang très précieux qui sauve les hommes, et en les rassemblant, nous pourrions les placer sous trois points principaux. D'abord, ce sang de notre Seigneur est le rachat. C'est celui qui nous rachète de nos péchés, qui rachète nos âmes. Ensuite, par ce sang, nous avons la vie de la grâce. Ce sang, c'est la vie de nos âmes. Et enfin, ce sang, c'est le gage de notre vie, de la vie éternelle du ciel. D'abord, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est le prix du rachat de nos âmes. C'est ce que notre Seigneur dit à la dernière scène, lorsqu'il inaugure le Nouveau Testament. C'est ce que les prêtres, que le prêtre dira tout à l'heure à l'autel pour consacrer le sang précieux de notre Seigneur. Il dira avec notre Seigneur, « Voici le calice de mon sang, sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera répandu pour vous, c'était pour les apôtres, et pour beaucoup, en rémission des péchés. » Le sang de notre Seigneur est offert en rémission des péchés. Et Saint Paul dit que c'est par ce sang que nous avons obtenu la propitiation, c'est-à-dire le rachat de toutes nos fautes, par le sang de notre Seigneur, comme on le disait au début. Tous nos péchés sont lavés, et à chaque fois que le prêtre donne l'absolution au confessionnal, eh bien, il fait couler sur nos âmes ce sang très précieux, ce sang qui a été offert une fois pour toutes sur la croix, qui est renouvelé ensuite tous les jours d'une manière sacramentelle sur l'autel et qui lave nos âmes au confessionnal lorsque le prêtre nous donne l'absolution. Sang très précieux qui nous montre tout le prix de notre âme, qui ne peut être lavé que par le sang de notre Seigneur. Et puis, le sang est aussi la vie de nos âmes. Lorsque le Sacré-Cœur fut ouvert, il en coula du sang et de l'eau, qui signifie tous les sacrements, les sources de toutes les grâces. D'ailleurs, comme on le chante dans la préface du Sacré-Cœur, « Ut apertum cor divinitus largeris nobis torrentes misericordiae et gratiae, afin que de son cœur ouvert, il répandit sur nous des torrents de miséricorde et de grâce. » En effet, nous sommes les membres du corps mystique, c'est-à-dire nous sommes les membres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de même que le corps physique de notre Seigneur reçoit sa vie de son sang, et bien de même, nous qui sommes les membres de son corps mystique, nous recevons cette vie mystique, cette vie surnaturelle, cette vie de la grâce par le sang de notre Seigneur répandu sur la croix. Et puis, le sang de notre Seigneur est aussi le gage de la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est des paroles de notre Seigneur aux Juifs dans le discours du pain de vie. Ce sang, eh bien, va nous donner la grâce et cette grâce germera dans le ciel si nous y sommes fidèles. Et ce sera la vision de gloire. D'ailleurs, quand Saint Jean contemple les élus, il les décrit comme ceux qui ont lavé leurs vêtements, c'est-à-dire leur âme, dans le sang de l'agneau. Et ce qui laverun stola suas in sanguine agni. Et pendant l'éternité, les élus chantent le sang de l'agneau qui les a rachetés et qui leur a obtenu la vie bienheureuse du ciel. En conclusion, chers fidèles, bien nous pourrions parler longtemps de ce sang si adorable, de ce mystère insondable de notre Seigneur qui verse tout son sang pour notre salut. Mais tirons-en trois conséquences pour nous. D'abord, il faut avoir une grande vénération, une grande dévotion pour le sang qui nous a racheté. D'ailleurs, tout au cours de ce mois de juillet, vous pouvez dire, par exemple, les six belles litanies du précieux sang qui se trouvent dans l'hémicycle des fidèles. Ce sont vraiment de très belles litanies que vous gagnerez à réciter tous les jours pendant ce mois. Il faut aussi avoir un grand zèle pour le salut des âmes, de nos âmes à nous et de l'âme de notre prochain, puisqu'ils ont été rachetés à un si grand prix, au prix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Jean Chrysostome fait remarquer, comment pourrions-nous être négligents à faire des sacrifices alors que notre Seigneur, lui, n'a pas hésité à répandre tout son sang pour sauver nos âmes. Comment pourrions-nous être hésitants à surmonter des difficultés, les difficultés demandées par une vie vraiment chrétienne, puisqu'il s'agit du salut de notre propre âme, alors que notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, lui a offert sa vie, sa propre vie, pour le salut des pécheurs. Et puis la troisième chose, la plus importante peut-être, c'est une très grande confiance dans la vertu du sang de notre Seigneur, dans l'amour de Dieu pour nous. Comme le remarque Saint Paul, si Dieu n'a pas hésité, si notre Seigneur n'a pas hésité à offrir sa vie pour des pécheurs, pour les hommes qui étaient encore plongés dans le péché, combien plus maintenant ne va-t-il pas nous accorder toute grâce nécessaire, tout don nécessaire pour notre salut, maintenant que nous sommes justifiés par son propre sang. Oui, ayons beaucoup de confiance dans nos prières, surtout dans l'efficacité de la prière de la messe, où nous offrons de nouveau le sang de notre Seigneur, puisque ce sang a une valeur toute infinie. Et dans nos difficultés, eh bien, confions-nous dans ce sang très précieux, puisque nous pourrons en obtenir toute grâce nécessaire. Demandons bien cette grâce à notre Seigneur d'une grande vénération pour le précieux sang, d'un grand zèle pour le salut des âmes rachetées par le sang de son Fils, d'une grande confiance aussi dans la vertu de ce sang qu'elle a vu couler sur la croix et qu'elle veut certainement que nous en tirions tout notre profit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.